présenter. Bien, bonjour. Avant de commencer, pour ceux qui éventuellement ont une connexion et veulent partager des prises de notes, on a ouvert un Framapad dont vous avez l'adresse qui est inscrite ici et à l'intérieur duquel vous avez grosso modo le plan et un certain nombre d'éléments qui sont dans le diaporama. Donc il n'y a pas tout ce qu'on va raconter, mais vous avez la structure de base et si vous voulez y rajouter des prises de notes personnelles à l'intérieur, vous pouvez, en sachant que vous pourrez bien sûr le récupérer directement. Normalement, il est public, si je n'ai pas fait de sottise, ça doit marcher. Si j'ai fait une sottise, vous me faites signe, vous me le dites, vous en ouvrez un et puis on dira où il est après. Mais voilà le principe. Donc, on va vous faire cette petite présentation sur faire de la recherche en sciences humaines avec le libre, en partant d'une petite anecdote, en vérité. Ouais, une petite anecdote qui est sur la diapo suivante. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais qui est de dire on n'échappe pas à son destin. Alors ça ne veut pas dire qu'on est très fataliste, mais voilà, il se trouve que l'équipe qui est ici, donc une équipe d'un petit groupe de recherche qui s'est auto-baptisé Topazapira, si vous avez des questions sur le nom, on y répondra à la fin, on est sur un projet d'étude des usages d'un environnement numérique de travail pour une collectivité scolaire, plus exactement pour des lycées. Et donc nous, on est chargé de faire des observations, de voir comment les gens s'en servent. Et par rapport à ça, eh bien, notre idée, c'est que cette communauté, elle est actuellement en Picardie. Et nous, on est en région lyonnaise. On n'a pas la possibilité d'aller observer sur place comment ils se servent de leurs outils. Et donc notre idée, c'était de dire, on va collecter des captures de la façon dont ils se servent de ces outils-là. On va les interviewer. En même temps qu'on les interviewe, ils nous racontent ce qu'ils sont en train de faire et comment ils s'en servent. Et pour faire ça, on avait besoin de faire des captations. Pour faire ces captations, eh ben, on butait sur un truc, parce qu'on avait une espèce de ligne de conduite de base, et on verra pourquoi on avait cette ligne de conduite de base, qui était de dire on va faire que du libre. Or, il y a 8-9 mois, quand on a voulu travailler sur cette logique de faire des captations à distance, de partage d'écran, eh bien, on n'avait pas d'outils pour le faire. Et d'outils complètement libres pour le faire. Et la mort dans l'âme, on s'est dit, on va pas le faire avec Skype, faut quand même pas exagérer. On avait pensé à Big Blue Button, mais ça tournait avec du Flash, fallait un serveur qui soit suffisamment costaud, etc. On a dit, Hangout, ça fonctionne pas si mal que ça. Donc on va essayer de faire avec Hangout. On a mis en place notre protocole, parce que une autre motivation qu'on avait, c'est qu'on pouvait pas être sur place. On ne pouvait pas être sur place dans un établissement où on n'a pas la maîtrise des operating systems qui sont installés, pas la maîtrise de la mise en place du dispositif de captation. Donc il fallait aussi que ce soit quelque chose qui soit simple à installer, facile à installer, dans le contexte où il y avait éventuellement une personne là-bas qui s'occuperait un petit peu des machines. Donc il fait on essaye de faire ça, et puis ça ne marche pas. Ça n'a pas marché parce que il y a eu des changements dans la politique de Google, etc. Ça n'a pas marché, les proxys de l'établissement. Bref, on a planté sur cette collecte de données. Et on a dû improviser parce qu'on était au mois de juin, que le bac allait commencer une semaine après, que les gens qu'on pouvait interviewer, c'était aujourd'hui, demain et après-demain. Et donc, il fallait trouver une solution. La solution, ça a été de dire, vous installez ce petit logiciel libre sur votre ordinateur. Nous, de notre côté, on colle un micro sur un téléphone qu'on branche sur Audacity. Et finalement, quand je disais qu'on n'a pas échappé à notre destin, c'est qu'au final, on a fait nos captations uniquement avec du logiciel libre. Donc, on s'est dit, on peut passer par le propriétaire exceptionnellement. Finalement, on ne pouvait pas faire confiance au propriétaire. On est revenu au logiciel libre. Alors, cette idée, d'arriver à faire de la recherche en sciences humaines avec du logiciel libre, c'est une idée qui a un parcours. Alors, c'est moi qui prends la parole parce que vous l'aurez remarqué, je suis le plus ancien un petit peu de ce groupe-là. J'essaye de continuer à être immature, mais ils sont super forts et j'ai du mal à rester dans le coup. Et donc, partant de là, en fait, il y a quelques années de ça, dans les années 90, je faisais des études sur les jeux vidéo. Et des études sur les jeux vidéo pour attaquer ma thèse, il n'y avait pas grand-chose en France qui était écrit dans la littérature scientifique, en sciences humaines, en communication médiatée par ordinateur. Et du coup, j'ai eu l'opportunité, dès 93, d'être connecté à Internet et de commencer à échanger. Mais Donc du coup, de me retrouver plongé ou à côtoyer des communautés qui étaient les communautés d'Internet, les communautés du logiciel libre, qui m'ont amené vers d'autres travaux autour du peer-to-peer et des communautés. Parallèlement, enseignant-chercheur, je suis aussi enseignant. Et enseignant côté multimédia, avec un énorme problème qui était celui de faire du multimédia à des étudiants qui devaient être professionnalisés. Et donc, on ne leur disait pas « vous allez faire de l'infographie », on leur disait « vous allez faire du phototruc ». Je vous laisse remplacer « truc » par ce que vous voulez. Donc, c'était bien gentil, mais ça ne fonctionnait pas, parce qu'en vérité, quand ils allaient en stage, ils n'avaient pas la même version que celle qu'on avait dans l'établissement. Et résultat des courses, je passais plus de temps en cours à débugger les fichiers créés avec Dream, truc, que eux avaient la dernière version, la seule qu'ils arrivaient à trouver sur le net, à acheter ou à hacker, parce que les autres versions, celles que nous on avait dans les établissements, elles n'étaient plus commercialisées. Et puis, sur les forums où on récupère des clés pour hacker les numéros de série, on a la dernière version, pas la version d'avant. Donc, résultat des courses, on passait du temps à faire ça. C'était l'époque où commençaient à apparaître les premières applications portables, notamment portées par Framasoft. Et qu'à partir de ce moment-là, moi, ce qui m'intéressait en tant qu'enseignant, c'était que mes étudiants puissent aller sur un lieu de stage avec dans la poche une clé USB, pas vraiment à l'époque, on n'utilisait pas encore beaucoup les clés USB à la fin des années 90, début des années 2000, mais au moins avec un CD sur lequel, effectivement, ils pouvaient lancer un vrai logiciel d'infographie et pas revenir de stage en me disant « j'ai fait le journal d'une ville de 15 000 habitants avec un traitement de texte et Penbrush », ce qui était une réalité pour des étudiants en communication. Ce contexte de recherche et de formation a fait que j'ai eu l'opportunité de mettre en route un diplôme, qui est une licence professionnelle en communication, qui s'appelle Colibre. Parce qu'à partir de 2005-2006, j'ai estimé que la panoplie des logiciels libres répondant aux activités d'un communicant était d'un niveau de qualité permettant de professionnaliser des étudiants avec ces objets-là. C'était à la fois des outils fiables professionnellement et d'abord des outils intéressants pédagogiquement. On allait faire de l'infographie et pas forcément un logiciel en particulier. De ce Colibre est né, à un moment donné, une reconnaissance de compétences qui fait qu'on a été invité par une très grosse société de services en informatique à être leur partenaire de recherche au sein d'un projet Investissement d'avenir, donc où on a eu suffisamment de moyens pour pouvoir constituer un petit groupe de recherche qui, depuis maintenant à peu près 6 mois, travaille pour encore 3-4 mois sur ce projet à développer, à faire des observations avec du logiciel libre, dans un contexte où on parle de logiciel libre, et avec l'idée de, est-ce qu'en SHS, aujourd'hui, on a les moyens d'avoir un outillage et différents éléments pour le faire. Alors, je vais céder la parole un petit peu, notamment pour que chaque membre de l'équipe se présente un petit peu et explique un petit peu quel est son rôle au sein de l'équipe, en sachant qu'on a 2 membres qui ne sont pas présents ici, c'est Vanessa David et Valentin Lop, qui pour l'un était stagiaire et a participé au développement d'un de nos outils. Johan t'en touchera 2 mots peut-être à un moment donné. Et puis Vanessa David, qui elle est une professionnelle qui fait du développement, mais qui intervient aussi dans le diplôme en termes de formation en communication, et notamment des formations sur le développement web et la communication infographique, en sachant qu'elle est en phase de préparation d'une thèse en communication.
Isabelle ? Alors, donc moi c'est Isabelle Sagnas, donc comme c'est écrit, doctorante en information et communication. Donc moi je suis de la partie recherche en sciences humaines et sociales. Donc ce qui m'intéresse, donc c'est le cheminement avec l'utilisation des logiciels libres d'une part, et d'autre part, moi je me focalise plus sur ce projet, sur tout ce qui est entretien Donc entretien, développement des données et la mise en valeur au niveau ensuite pour la publication, la publicité, justement par la suite, quand ce projet sera terminé, de l'aspect scientifique et de la mise en valeur de ça. Voilà.
On peut passer la parole à Yassine. Alors, C'est Yassim Rami. Donc moi, je suis à la base gérant d'une petite structure qui fait de l'ingénierie web. Et j'interviens pour ce projet, tout ce qui concerne la mise en place des serveurs, la maintenance des serveurs et disons le bien-être de tout le monde, toutes les applications. Et je passe à Mallory.
Donc moi, je suis Mallory Gessaume. Je suis une ancienne étudiante de Colibre, promo 2012. J'ai fait mon stage de fin d'études pour l'organisation des RMLL 2012 à Genève. Et donc au sein du groupe de recherche, je suis ingénieure d'études et je fais aussi un petit peu de communication. Donc j'ai notamment conçu les questionnaires, enfin on va en parler un petit peu plus tard. C'est qui, Johan?
Donc moi je suis Johan Binard. Oui, Johan, il y a un J mais c'est Johan. Je précise, j'ai l'habitude. Donc moi je suis ce qu'ils appellent le geek de l'équipe. Donc, c'est-à-dire que je bidouille de tous les côtés. Je gère les postes informatiques du labo. Donc, Yacine s'occupe du côté serveur. Moi, je gère les postes de travail, sachant qu'ils sont tous sous Linux. Bon, pour nous, ça va de soi, mais je préfère le préciser parce que c'est peut-être pas le cas chez tout le monde. Et sinon, je m'occupe essentiellement donc de la recherche des logiciels qui peuvent être intéressants dans le cadre de notre étude. Donc, beaucoup de veille technologique. Et un cycle du développement. Donc, quand on a des logiciels qui bug, c'est moi qui suis responsable de chercher pourquoi ça bug et comment en faire profiter la communauté à partir du moment où on l'a débugué. Et je fais également du développement donc de logiciels spécifiques pour notre laboratoire, enfin pour notre équipe.
Et donc, finalement, moi, je suis Richard Porto, je suis stagiaire, je viens aussi de Colibre de cette année. Et en fait, j'aide un petit peu dans toutes les tâches. Je n'ai pas vraiment de spécialité encore. Et donc voilà, je ne suis pas larbin, mais presque. Non. Voilà.
Bien, merci pour ce petit tour. Donc vous avez repéré un petit peu qu'il y avait quand même une certaine diversité avec des compétences qui étaient beaucoup de compétences montantes parce qu'on s'est retrouvé dans un contexte qui était un petit peu particulier en termes de gestion justement de ce projet de recherche. Alors, pourquoi associer logiciel libre et recherche? Alors, pour nous, il y a quatre niveaux. D'où ces quatre cercles qui se croisent. Ce n'est pas quatre niveaux, il y a quatre champs qui interagissent entre eux sur l'intérêt d'utiliser des logiciels libres dans notre cas de figure. Un premier niveau, c'est parce que ce sont des outils. C'est d'une façon purement pragmatique. C'est qu'on a, dans le logiciel libre, des logiciels qui vont répondre à nos besoins en termes de recherche. Et qui, s'ils n'y répondent pas, ont potentiellement la possibilité de répondre à nos besoins dans des conditions qui sont adaptées à notre logique, à notre environnement de recherche et aux moyens qu'on peut avoir. Donc, on a des outils pour collecter, des outils pour traiter, des outils pour faire notre activité de chercheur qui échange, qui moissonne, qui vont comme ça avoir un ensemble d'activités qui vont se réaliser au travers de ces outils-là. Communiquer, c'est donc ce deuxième niveau, c'est que ça nous permet aussi bien d'être en interaction entre nous, à l'intérieur de notre champ de recherche, mais aussi dans notre rôle de chercheur au sein d'une société, et qui du coup vont avoir à un moment donné à travailler sur la dissémination de ce qu'on produit, de ce qu'on fait. Un troisième niveau qu'on abordera un peu plus rapidement, mais sur lequel on pourra éventuellement poser des questions, c'est celui de considérer que le logiciel libre est un champ d'étude, un champ de recherche. C'est qu'aujourd'hui, on a au travers du logiciel libre, pour nous, chercheurs en communication, un ensemble d'objets de recherche qui sont parfaitement intéressants. Et puis, le dernier niveau, qui en fait pourrait être et est chez nous le premier niveau, c'est celui de l'éthique. C'est de dire que le logiciel libre, eh bien, il répond, selon nous, à une certaine vision du rôle du chercheur, en tout cas du chercheur public, dans un contexte de recherche financé publiquement et participant, eh bien, à la recherche publique. Alors, ça, on va le voir. On va commencer sur ces quatre niveaux, peut-être au niveau des outils qu'on a abordés. Mallory, tu nous fais un petit tour de ce qu'on a pu utiliser et garder vite fait.
Avec plaisir. Alors, les outils qu'on a utilisés, donc vous en avez une petite liste ici, elle n'est pas exhaustive. Comme vous pouvez le voir, notamment ViewYourMind, LemSurvey, RecordMyDesktop, tout ça, c'est surtout pour la collecte d'informations et pour le traitement. Le traitement, ça viendra après. On n'est pas encore dans cette phase-là au niveau du projet de recherche, mais ça va venir et on commence déjà à regarder les outils et à voir lesquels on va utiliser. Vous pouvez voir aussi une capture d'écran de Plume, donc de projetplume.org. Plume, c'est un projet qui vise à être un annuaire en fait des logiciels qui peuvent être utilisés dans l'enseignement supérieur et dans la recherche notamment. Donc on va contribuer à ce projet avec notre expérience et nos outils qu'on aura utilisés. Voilà, c'est à toi.
Donc on a dû faire des questionnaires et donc c'est pour ça qu'on a utilisé LimeSurvey, donc qui permet de créer et gérer des questionnaires avec énormément d'options et une grande facilité de création. Et les gestions des réponses dedans sont assez basiques. On peut faire du tri à plat, juste ça en fait. Et donc on a dû après exporter les résultats pour pouvoir mieux les traiter. Et donc c'est pour ça qu'après on a utilisé RKWard. Mais du coup c'est à Johan d'en parler.
Voilà. Donc au niveau du traitement statistique des données, donc, comme Mallory vous l'a dit, on n'est encore pas à cette phase de l'étude. Par contre, on a fait beaucoup de recherches au niveau des logiciels qui peuvent être intéressants. On s'est rendu compte que R est vraiment une référence en la matière pour tout ce qui est statistique. Le problème de R, c'est qu'à la base, c'est un langage de statistique, un langage de programmation pour les statistiques, et non pas on va dire un logiciel facile à prendre en main. Or, nous avons une équipe de recherche qui ne sont pas forcément tous des geeks et où tout ce qui est logique informatique, ça peut parfois, je ne vais pas dire que ça peut les dépasser, mais pas loin quand même. Du coup, il a fallu arriver à trouver un logiciel qui soit adapté à leurs besoins tout en restant assez simple d'utilisation. Donc pour ça, finalement, on avait retenu trois logiciels qui paraissaient intéressants pour utiliser R, qui étaient donc RKWard, R Commander et RStudio. J'ai testé les trois. Au final, je me suis rendu compte que RKWard était le juste milieu, puisque RCommander est très très simple à prendre en main, mais reste assez basique. C'est-à-dire que pour tout ce qui est génération de graphiques, par exemple, on est très rapidement limité. A l'inverse, RStudio est un environnement de développement, donc qui s'adresse à des développeurs. C'est pas de la ligne de commande, mais ça reste un IDE. IDE, c'est bon. Bref. Un environnement de développement. Et donc RKWard est entre les deux, il y a des fonctionnalités assez avancées tout en restant utilisables par des chercheurs qui ne sont pas dans l'informatique. Donc voilà.
Je vais pouvoir passer à la suite. C'est encore moi. Donc ViewYourMind, un petit logiciel que j'ai beaucoup utilisé. C'est donc un logiciel de carte heuristique, de mind mapping aussi, on dit en anglais. Donc on peut, à partir d'une idée centrale, déployer plusieurs branches et sous-branches avec différentes idées, différents exemples, un peu ce que vous voulez, et qui est, à mon sens, très pratique. Je l'ai utilisé pour concevoir, enfin on l'a utilisé tous ensemble d'ailleurs, pour concevoir notamment le questionnaire, avec tous les problèmes que ça imposait, du genre les questions, les réponses des questions qui engendrent d'autres questions, les problèmes de dépendance, de conditions, tout ça. Avec ViewYourMind, c'était assez pratique à visualiser. Voilà, on l'a aussi, mais on l'a pas utilisé que pour ça. C'est vrai qu'on l'a aussi utilisé à l'occasion, lors des réunions, pour mettre à plat les idées, faire participer tout le monde sur un rétroprojecteur. C'était vraiment très pratique pour le travail de groupe aussi. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc c'est un logiciel libre évidemment, et voilà.
Je prends la suite. La suite, c'est Iramutech. Alors, Iramutech, c'est un logiciel qui est issu d'un projet d'une ANR, donc qui a été développé à Toulouse, si je ne dis pas de sottises, au Leras, et qui est en fait là aussi une surcouche de R, et qui est une surcouche qui, elle, s'applique à traiter des corpus de textes. C'est pas le seul à faire ça, notamment il y en a un qui vient de rentrer, qui aujourd'hui nous intéresse et sur lequel on va regarder, qui s'appelle Artemis. Donc c'est Artemis, mais ça se prononcera Artemis, qui lui aussi permet de traiter des corpus de textes, parce que ce qui nous intéresse beaucoup en sciences humaines, eh bien, c'est pouvoir soumettre aussi bien des textes écrits que des retranscriptions à ces outils de gestion statistique. Et au travers de ces surcouches-là, eh bien, on va avoir des outils qui vont permettre à des chercheurs en sciences humaines d'intégrer des corpus sur lesquels ils ont l'habitude de travailler, qu'ils ont l'habitude de collecter, pour qu'ils puissent ensuite faire des analyses statistiques sur ces corpus-là. Un petit tour sur le DocuWiki qu'on a utilisé pour dire que ça nous sert à quelque chose.
Alors, donc le DocuWiki, donc on a créé ça. Donc d'une part, bon là peut-être c'est assez petit, donc ça peut être anecdotique, mais pas du tout. Puisque au niveau du logiciel libre et tout ce qui est informatique, comme a pu dire Johan. Donc notamment dans le wiki, ça nous permet effectivement une coordination, une mutualisation du cheminement de pensée lors de ce projet. Tout autre projet aussi, hein, ça peut servir. Donc on a créé aussi un glossaire du néophyte, hein, puisque quand on parle de code dans votre langage à vous, pour moi aussi, c'est des codes, et donc j'essaie de les décoder, et via un glossaire qu'on a effectué du néophyte, c'est moi, hein, le néophyte. Donc voilà, ça permet effectivement la communication, puisqu'on est en recherche de sciences humaines et sociales, et dans le domaine plus pôle communication. Donc ça permet effectivement de mutualiser, et cette structuration de pensée malléable, donc progressive, pardon, donc progressive, donc pour améliorer, comme vous faites remonter des bugs lors de programmation, des choses comme ça. Donc c'est à peu près la même chose sur ça. Et donc comme vous le savez aussi, c'est une écriture collaborative, ce qui rejoint le sens du partage qui est dans ce projet assez important. Voilà, donc je vous passe la suite à mon collègue.
Alors, donc, vous avez vu quelques logiciels. Il y en a certains qui s'installent dans les logiciels clients. Il y en a certains qui s'installent sur des serveurs. Donc, on était obligé donc de prendre un serveur et de mettre en place ces outils collaboratifs. Donc, dont par exemple Agora Project. Je précise juste, globalement, on a pris donc un serveur qui est, on a pris une structure de virtualisation dans le sens où essayer de mettre un serveur virtualisé pour un projet, pour un besoin. Peut-être qu'il y aura d'autres projets de recherche, d'autres besoins. À ce moment-là, on pourrait créer un autre petit serveur virtualisé pour qu'on puisse avoir les outils nécessaires et surtout optimiser tout cela. Je laisse à Johan pour expliquer un petit peu les projets Agora Project qu'il vient de développer.
Voilà, au niveau adaptation, on a fait un gros travail donc, sur notamment Agora Project. Donc ce travail, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le stagiaire qui n'est pas là aujourd'hui, donc Valentin Lop, qui est un stagiaire qui fait des études en informatique. Il était en première année de master d'informatique. Et donc il s'est occupé du système de notification qui est intégré au logiciel, puisque Agora Project est donc un groupware. Le problème, c'est qu'il y a possibilité de créer différents espaces, mais dans les notifications, cette notion d'espace n'apparaît pas. Du coup, on avait de gros problèmes quand on travaillait. Si on travaille avec un seul projet sur un Agora Project, il n'y a pas de souci. S'il y a plusieurs projets en parallèle, ça devient rapidement le bazar. On a plein de mails, mais on ne sait pas à quoi ils correspondent. Donc de ce côté-là, il a fait un travail d'adaptation qu'on a souhaité reverser donc, au développeur. On a essayé de prendre contact avec lui, malheureusement, délicatement. Donc pour le moment, on a fait quelque chose qui est facile à intégrer, mais qui n'est pas intégré dans le projet. Donc notre code est accessible, vous pouvez le rajouter dans votre Agora, mais ce n'est pas dans le projet d'origine. Sinon, concernant donc, le dernier SRT Tags, c'est mon petit bébé. Donc ça, c'est un logiciel que j'ai développé dans le cadre du labo, qui permet de taguer des séquences de vidéos. Parce qu'on avait un besoin par rapport aux entretiens qu'on a fait. L'idée, c'était de pouvoir dire, bah voilà, il se passe telle chose de temps à temps, et pour pouvoir ressortir ensuite, notamment dans des statistiques, de dire pour tel entretien, ça a pris tant de temps, pour tel autre, ça a pris tant de temps. Et le problème, c'est qu'il y a des logiciels qui permettent de taguer des vidéos. Mais généralement, enfin, en tout cas par rapport à la veille que j'ai fait, ça permet de le faire sur une seule vidéo. Nous, l'idée, c'était aussi de pouvoir dire, voilà, je recherche tel tag, et lis-moi toutes les vidéos, toutes les séquences qui correspondent à ce tag-là, donc de temps à temps. Donc voilà, dans ce cadre-là, je suis en train de développer un soft, donc on a appelé SRT Tag, niveau originalité, c'est limite, je sais. Mais voilà, l'idée, c'est de partir avec un logiciel de sous-titrage qui nous sort un fichier SRT, qu'on envoie sur le serveur qui est mouliné, et le tout est ensuite stocké en base de données, réutilisable facilement. Et bien sûr, tout le code est accessible, c'est sur un GitHub, donc sur la branche Topaz Zapiera. Et voilà.
La médiatisation. Alors la médiatisation, c'est de dire qu'on a utilisé... On a fait un peu de faillotage sur cette diapo. Non, c'est pas... On a utilisé différents outils donc pour communiquer entre nous. Et un des principaux outils qu'on a utilisé entre nous, c'est effectivement le Framapad. C'est vraiment sur cette idée qu'on a beaucoup utilisé les outils qui nous permettaient de travailler collaborativement et qu'aujourd'hui, ça fait partie des outils qui nous servent très fortement, notamment pour avoir justement un suivi d'un projet à l'intérieur duquel il y a des gens qui sont là en permanence et dans lequel il y a des gens qui sont là de façon intermédiaire. À côté de ça, vous voyez qu'on a un ensemble d'autres outils. On vous a évoqué Agora Project, le OwnCloud, on ne l'a pas évoqué, mais qu'on utilise aussi sur certains trucs. Donc, différents outils d'un côté. Et puis, de l'autre côté, en promotion-diffusion, eh bien, on a un groupe sur Zotero pour partager des références bibliographiques. Donc, on voit bien que sur l'ensemble des points d'activité du chercheur, on a aujourd'hui des éléments qui, pour nous, chercheurs en sciences de l'information et de la communication, répondent à nos besoins et au travers desquels on peut réaliser l'ensemble de ces activités-là. J'avais ensuite l'idée que le logiciel libre, eh bien, c'est quelque chose qui nous intéresse. Qui nous intéresse parce que, effectivement, le logiciel libre réunit une communauté d'utilisateurs exemplaires. Alors attention, quand on dit exemplaire, ça ne veut pas dire des modèles à suivre. On aurait dû employer peut-être le terme d'archétype, mais c'était trop dur. Mais dans cette idée qu'ils sont aujourd'hui des utilisateurs qui expérimentent et qui innovent sur les dispositifs de communication et qu'ils vont en éprouver un certain nombre, ils vont les modifier parce qu'ils ont les moyens de les modifier et par un ensemble de jeux d'essais-erreurs, ils s'approprient des technologies qu'ils vont conserver ou pas et qui vont ensuite se disséminer vers d'autres utilisateurs. Qu'aujourd'hui, si on reprend des travaux qui ont été faits sur les communautés altermondialistes, les communautés de biens communs, etc., etc., eh bien, on a des pratiques communicationnelles et organisationnelles au sein des communautés qu'on a pu repérer dans les pratiques des communautés libres. Et on dit bien des communautés libres parce que la gouvernance d'un projet GIMP, c'est pas la même qu'un projet Inkscape, que ça fonctionne pas de la même façon, qu'il n'y a pas les mêmes règles de valorisation et de reconnaissance à l'intérieur. Donc, ça fait partie des choses qui nous intéressent en termes de fonctionnement de communautés qui médiatent par l'ordinateur leurs activités. Et puis que, du coup, ben, ça permet de repérer des formes d'innovation, je dirais aussi de rénovation, de pratiques organisationnelles, communicationnelles, qu'on pourrait appeler post-industrielles. Mais là, c'est un terrain sur lequel on pourra rentrer plus particulièrement. Éthique et idéalisation, eh bien, c'est cette idée que j'avais un petit peu évoquée au départ, qui était de dire que chercheur dans le domaine public, chercheur public, eh bien, il nous apparaît que c'est normal que les gens qui font de la recherche ouvrent une partie du travail qu'ils font, qu'ils le rendent visible. Alors, je dis une partie du travail qu'ils font, non pas pour dire qu'il y a du travail qui doit être caché, mais pour dire qu'il y a des données sur lesquelles on doit assumer un certain nombre de responsabilités par rapport aux personnes qui nous les ont confiées. Ils ne nous les ont pas données, ils nous les ont confiées. Et que des fois, il y a des données qui sont des données personnelles et qu'il nous appartient de les gérer correctement. Qu'à côté de ça, eh bien, effectivement, on est dans une logique d'un idéal de la recherche. Je dis bien un idéal de la recherche qui est malmené aujourd'hui par les pratiques et les incitations aux formes de recherche, mais une pratique de la recherche qui, idéalement, fonctionne sur une logique de partage au sein d'une communauté. Aujourd'hui, le fonctionnement de la recherche, avec la course aux publications, n'incitent pas forcément à ces logiques de partage. Mais il n'est pas certain qu'elles soient très productrices et qu'elles ne soient pas aussi, d'un autre côté, stérilisantes. Voilà un petit peu le parcours qu'on a fait. Et du coup, ben, on vous remercie pour votre attention. Et puis, on a quelques petits trucs qui commencent à apparaître sur cette partie-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le début de phase de dissémination de ce qu'on commence à capitaliser, je dirais, sur nos pratiques. Et qu'à partir de là, on espère quand même qu'on va faire grossir ce truc-là et qu'on aura l'opportunité de continuer à faire vivre cette équipe, la réunir, lorsque on aura d'autres petits projets qu'on pourra récupérer pour rallumer, raviver ce truc qui aujourd'hui est porté effectivement par un projet investissement d'avenir qui va s'arrêter au mois de décembre. Et au mois de décembre, eh ben, nous, on va s'arrêter en partie aussi en voyant aujourd'hui comment on peut trouver d'autres solutions pour maintenir cette capitalisation de ce qu'on a fait jusque-là et puis maintenir cette dynamique qui est plutôt sympathique et qui fonctionne plutôt bien en ce moment. Voilà, je vous remercie. Au nom de l'ensemble de l'équipe. Si vous avez...
Je savais que j'en aurais avant l'arrivée, donc je ne vais pas trop encombrer. Juste des questions peut-être de détail, puis je reviendrai vers vous pour les questions de collaboration. Juste les répéter au micro après.
Oui.
D'accord. Vous voulez que je prenne le micro ?
Moi, je veux bien, ouais.
Voilà, trois petites questions. Bon, ça passe là. Oui, trois petites questions de détail. Vous avez cité l'outil de cartographie cognitive View Your Mind. Moi, j'utilise pour les mêmes raisons que vous FreeMind, qui est fort limité. Je me demandais si c'était une alternative auquel vous avez pensé. Et si View Your Mind est mieux, j'aimerais entendre votre point de vue, ne fût-ce que pour pouvoir changer l'année prochaine. Vous avez cité un outil que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Artemis. Ah oui, Artemis. Je veux bien savoir un tout petit peu plus parce que ça m'intéresse. Je dirais d'ailleurs à Pierre Ratineau que j'ai entendu parler d'Iramutech, ça lui fera bien plaisir. Et alors, une question sur SRTax, votre bébé. Alors c'est une pratique que je connais très peu, moi je ne pratique pas la notation de vidéo, mais j'ai des collègues qui le font et qui utilisent des choses existantes comme Transalin, comme Anvil, comme Elan, comme Transcriber. Je me demandais si c'était des alternatives que vous aviez envisagées et si vous les aviez écartées. Je voulais éventuellement vous entendre un petit peu plus, ce qui me permet peut-être de reboucler sur Artemis. J'en avais annoncé trois et puis il y en a une quatrième. Les outils que vous avez montrés en termes d'analyse, que ce soit pour les vidéos ou bien pour Iramutech, sont des outils qui permettent de faire de l'annotation et puis du traitement statistique. Je me demandais si vous aviez une pratique ou pas d'annotation associée à une analyse plus qualitative et pas nécessairement quantitative des résultats. Et alors, si c'est oui, on pourra en parler après.
Oui, je vais redistribuer la parole effectivement aux différentes personnes et revenir sur cette dernière question, ou très rapidement sur la partie qualitative. La partie qualitative, elle va s'aborder en deux temps chez nous. Il y a d'une part avec ce que la partie statistique va nous laisser soupçonner de nécessité de réinterprétation qualitative. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les chiffres, parce qu'on n'aura pas des volumes de données nous permettant de tirer des lois de chiffres. Donc ça, c'est une première chose, mais que ça nous donnera des pistes d'interrogation qualitative. Et qu'à côté de ça, eh ben, effectivement, on a un corpus d'entretien sur lequel on va retravailler avec d'autres grilles et que même le tagage est lui-même déjà un début de travail qualitatif là-dessus. Donc ça, c'est pour répondre. View Your Mind pour Mallory. Et puis toi, tu prendras la suite sur les logiciels de tagage.
Donc pour le choix entre FreeMind et View Your Mind, alors c'est vrai qu'on connaissait les deux logiciels. Dans l'équipe, il y en avait qui utilisaient un peu FreeMind, d'autres qui utilisaient View Your Mind. Et au niveau de la compatibilité entre les deux, c'est pas forcément au top, donc on a décidé de s'harmoniser là-dessus. Et on a choisi View Your Mind parce que c'était le plus complet, enfin le celui qui nous plaisait le plus à nous en plus. Donc voilà, en fait, c'était une question de choix, en fait. Je pense plus que de performance du logiciel.
C'était celui du chef, mais c'était celui du chef, mais le chef l'avait choisi parce que c'était celui qui, du point de vue de l'organisation de la présentation, est le plus souple, parce qu'il nous permet de mettre les branches où on a envie de les mettre, et puis qui nous permet de déplacer facilement les branches, et qu'on n'a pas ces espèces d'araignées pleines de pattes, ou ces espèces de mille pattes qui naissent des freemines. Donc là, c'est que ça nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, et puis dessus, il y a des fonctionnalités qui permettent d'avoir une circulation éventuellement presque sous forme de diaporama. Tu peux créer un scénario qui te permet d'aller d'un endroit à l'autre avec des zooms et des pas zooms, etc. Donc il est... Et puis en ce moment, il a repris du poil de la bête en termes de développement. Là, ça fait 2 ans qu'il est en train de remonter. Actuellement, il y a des versions qui sont commitées assez souvent.
Et donc pour la question sur les logiciels de traitement, d'annotation de vidéo, j'en ai testé énormément. J'avais toujours un problème donc concernant Elan. Il m'avait semblé être le logiciel parfait. Le seul problème, donc j'ai contacté les développeurs parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Il se trouve que c'est un logiciel qui est développé en Java, qui faisait appel à une couche qui permettait d'utiliser FFmpeg pour lire les vidéos. Le problème, c'est que cette couche n'est plus développée depuis un moment, qu'FFmpeg est un logiciel qui évolue beaucoup, et du coup, qui n'est plus compatible. Donc actuellement, Elan fonctionne sur Mac, fonctionne sur Windows, mais ne fonctionne plus sur Linux. Et actuellement, les développeurs le savent, ils cherchent une alternative, mais il n'y a rien de fait pour l'instant. J'avais vu aussi Adven, donc Adven, qui est développé par une université à Lyon. C'était aussi intéressant. Le problème, c'est que niveau interface, c'était vraiment pas du tout ergonomique. Donc là, c'est toujours l'idée d'arriver à permettre une prise en main rapide. S'il faut faire des sessions de formation pour taguer les vidéos, si le tagage est censé prendre 5 minutes, mais qu'il faut 3 jours de formation avant, ça n'a pas un grand intérêt. Et le souci aussi, c'est qu'Adven, comme la plupart des logiciels que j'avais vus, ne permettent de taguer qu'une seule vidéo et de faire des recherches que sur cette vidéo-là. Donc mettre des tags, mais faire la recherche que sur une vidéo, ça n'a pas un grand intérêt. Enfin, en tout cas, nous, dans le cadre de notre recherche. Et pour finir avec Anvil, si ma mémoire est bonne, c'est celui-ci. Ce logiciel n'est pas libre. On a un logiciel qui est gratuit, mais lorsqu'on va pour l'installer, il est marqué que l'utilisateur s'engage à ne pas essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bah, moi, désolé, mais ça m'arrête. D'autres questions ?
Au sujet des logiciels, est-ce qu'il est prévu que à la fin du travail vous fassiez un petit document pour signaler les cas d'utilisation, parce que ça sera bien sûr utile à d'autres personnes. Est-ce que tous ces logiciels possèdent des paquets qui permettent de les installer facilement, et le cas échéant, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas impactés, on peut prendre contact?
On peut pas le montrer véritablement aujourd'hui, mais justement, au fur et à mesure qu'on travaille sur nos pratiques et nos méthodes, justement, le DocuWiki est cet espace de capitalisation où, à l'heure actuelle, on est en train de déblayer une partie du terrain sur comment nous on s'en sert, comment on peut les installer, dans quelles conditions on les a utilisés, donc d'avoir des cas précis de leurs usages et de la façon dont on s'en sert. Donc, on est en train d'essayer de documenter l'idée qu'un Record My Desktop, on va l'utiliser dans des conditions particulières et dans un contexte de recherche particulière. Donc, on est actuellement déjà en capitalisation pour faire cette restitution-là, dont on ne sait pas encore exactement toutes les formes qu'elle va pouvoir prendre. Mais il y a les fiches plumes qui existent. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, par rapport à des fiches plumes, c'est d'aller dans le cadre d'une pratique appliquée, de le mettre en relation avec l'usage qu'on en a fait à un moment donné et avec l'idée d'illustrer ces usages avec nos cas, avec nos exemples, ou d'autres exemples peut-être après qu'on utilisera pour enrichir ce truc, mais on est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une logique de répertorier les applications, mais de travailler sur des accompagnements à l'usage de ces applications dans le contexte de la recherche en SHS. Voilà. Sur les paquets, elle va avec, c'est-à-dire que typiquement, on fait pas les paquets sauf sur les trucs sur lesquels nous, on travaille. Mais quand on documente le logiciel, on documente aussi son installation et la façon dont on va pouvoir l'intégrer à un environnement.
Et donc, simplement pour compléter, ce que je disais donc tout le long de ma présentation, c'est qu'on est aussi toujours en contact avec la communauté qui développe le logiciel. J'essaye à chaque fois qu'on utilise un logiciel où il y a un problème de rentrer en contact avec eux pour voir comment régler le problème, mais aussi leur faire remonter pour que ça puisse être intégré. On a l'exemple typique de Lime Survey où il y avait un bug sur l'export vers le format R, où quand on avait des guillemets, ça plantait, ça faisait planter tout le fichier de syntaxe R. J'ai résolu le bug, j'ai contacté la communauté, ça a été intégré dans le projet. Maintenant, si vous l'installez, il n'y a plus aucun souci.
Merci, Johan.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Je vous applaudis aussi parce qu'on est bon.